réveillés, bonne matinée. Il est 10h.
Le point sur l'actualité nationale et internationale.
Bonjour, bonjour à tous. François Hollande a jugé ce samedi à Abu Dhabi que sa première action comme président devait être désormais la protection des plus fragiles et des populations menacées par la guerre ou le terrorisme, dans sa première déclaration depuis son renoncement à un second mandat. Près de 2 mois après l'attaque au cocktail Molotov dont ont été victimes des policiers à Viry-Châtillon, le 8 octobre dernier, un adolescent de 17 ans a été mis en examen et écroué. Ce mineur est soupçonné d'avoir participé à la confection des cocktails Molotov utilisés lors de l'agression. Cet adolescent a été mis en examen pour complicité de tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique. Tandis qu'un second mineur âgé de 15 ans, soupçonné comme le premier, d'avoir notamment participé à la fabrication des engins incendiaires. Il a été placé sous le statut de témoin assisté. Ces deux mineurs sont originaires de la cité de la Grande Borne et étaient déjà connus des services de police. Les enquêteurs poursuivent leur investigation pour tenter de mettre la main sur les autres protagonistes de cette agression violente. La préfecture de police envisage d'imposer la circulation en alterné ce lundi en Île-de-France. En cas de persistance de la pollution, pour la 9e fois cette année, la capitale est touchée de façon intense par la pollution, avec des risques pour la santé publique. C'est pour cette raison que la maire de Paris, Anne Hidalgo, a réclamé ce vendredi la mise en place dès que possible de la circulation alternée en Île-de-France, à Paris et dans 22 communes de la Petite Couronne, comme le prévoit l'arrêté interministériel en cas de pic de pollution persistant. Par ailleurs, la maire de Paris veut prendre exemple sur Tokyo qui, en 15 ans, est parvenue à éradiquer le diesel grâce à une politique ferme et volontariste. Elle a réaffirmé vendredi dernier son engagement d'interdire dans la capitale, d'ici 2025, les véhicules diesel, aux côtés des villes de Madrid, Athènes et Mexico. L'actualité à l'étranger. Donald Trump a mis fin à près de 40 ans de rupture avec Taïwan en appelant sa présidente ce vendredi. La Maison-Blanche a de son côté réaffirmé son soutien à la Chine unique. Confirmant son style atypique, le président élu américain Donald Trump a pris le risque d'une crise majeure avec la Chine vendredi en parlant au téléphone avec la présidente de Taïwan. Une rupture spectaculaire avec 40 ans de tradition diplomatique avec Pékin et Taipei. Washington, que ce soit des administrations républicaines ou démocrates, soutient depuis les années 1970 la politique de la Chine unique ou d'une seule Chine qu'il a vu reconnaître Pékin en 1978 et rompre ses relations diplomatiques avec Taïwan en 1979. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis.
La météo de votre région sur RVE.
La météo avant de retrouver le sport, sachez que le temps sera aujourd'hui dégagé avec du soleil, peu de nuages, des températures négatives pour l'instant, moins 1 degré, moins 2. Dans la journée, on atteindra les 4 à 5 avec un ciel relativement dégagé. Ce beau temps de saison devrait durer jusqu'en début de semaine.
Chaque dimanche, 10h-11h, sur RVE, retrouvez toute l'actualité sportive, locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune Sport. Avec Philippe Carnu.
Eh oui, bonjour à toutes et à tous. C'est le premier donc dimanche du mois de décembre. C'est Tribune Foot, ravi en tout cas de vous retrouver. Je voudrais d'abord remercier tous ceux qui ont été généreux et solidaires à l'occasion de ce week-end de Téléthon qu'on vous a fait vivre sur notre antenne. Le Téléthon, ça continue encore toute la journée et puis ça continue même encore une bonne semaine. 36-37, on a fait plus de 80 millions de promesses de dons. On est un peu en hausse par rapport à l'année dernière. Donc il faut continuer. On y reviendra la semaine prochaine dans notre émission Tribune Sport. Ce matin, on va accueillir une partie de notre équipe, hein, parce que certains nous ont désertés, notamment Juliette et Edouard Rouvel, hein, qui ont pris un petit week-end de repos, Arnaud qui lui est sur Eurosport, et puis Olivier qui est parti à Punta Cana. Mais on a les plus solides, les plus fidèles avec nous, hein, le bloc, et notamment notre ch'ti, Francis Coche. Salut Francis.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Ouais, comment ça va?
Ben, ça va bien.
Bon, Lille va mieux?
Lille va mieux, mais...
Depuis quand Tony a été viré?
Ouais, bon, hein, est-ce que... Espérons que ça continue.
Très bien. Allez, notre ami Bibi, alors, les Verts sont en milieu de tableau, mais sont qualifiés pour le tour suivant de l'Europa League. Ça lui suffit, ça va Bibi?
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Les Verts qualifiés pour... donc
qualifiés, et si on gagne ce soir à Rennes, on remonte à la 5e place, donc ça va.
Ouais, on va voir ça. Allez, Boris, que je salue, je suis content de le retrouver. Ça va, Boris ?
Ouais, impeccable.
Ouais,
super.
Pleine forme ?
Ouais, très bien.
On voit des beaux matchs de foot, non ?
Oui, oui, ça, c'est disparate, mais on voit des buts.
En tout cas, oui, c'est vrai qu'on a des moyennes de buts assez élevées, entre 25 et 27. On a eu par contre un week-end un peu houleux. On va en parler. Hein, voilà. Il est le seul Parisien autour de la table aujourd'hui. Oui. C'est notre ami José Vega. Ça va, José ?
Bonjour, Philippe. Bonjour à tous. Oui, ça va très bien. Moi, le PSG, pas très serein en ce moment, mais bon, je pense que ça va revenir.
La semaine avait été bonne jusqu'à hier.
Mais c'est quand même une 3-0 à Montpellier, c'est quand même une grosse défaite. Hein. Ça va marquer les esprits.
Très bien. Et puis, il joue le ventre mou du classement. C'est notre ami Pierre. Ça va, Pierre ?
Salut, Philippe. Ouais. Bonjour à tous. Ouais, ça va. Ouais.
Ça va, Marseille a renoué avec la victoire.
On attend le mercato, nous. On est tranquille.
Très bien, donc on va commenter l'actu foot, hein, je l'ai dit, Ligue 1, Coupe d'Europe, équipe de France. On commencera avec le Ballon d'Or et puis on aura un petit direct avec le président de la section foot de Rambouillet, Florian Baudouin, qui va nous dire une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Alors on commencera par la mauvaise hein, et puis on enchaînera ensuite sur la bonne nouvelle. Je vais lui laisser la primeur de l'événement. Le Ballon d'Or, ça va être le 13 décembre prochain. On peut aller dire Ronaldo sera Ballon d'Or, 4e Ballon d'Or, sans aucun problème.
Oui, je pense. Il y a toujours les deux éternels, hein, Messi, Ronaldo. Peut-être un degré moindre, Griezmann. Mais je pense que cette année, le Ballon d'Or reviendra naturellement à Ronaldo. Quoique Griezmann n'a pas démérité non plus et il mériterait peut-être. Mais un jour ou l'autre, il en aura un aussi. Mais je pense que cette année, et là, il y a que les journalistes qui vont voter. Ça peut changer beaucoup de choses.
On est revenu à la formule initiale du Ballon d'Or que par des journalistes. Donc souvent, c'est pas des gens complètement du métier. Les palmarès diffèrent un peu. Là, Ronaldo, il a gagné l'Euro, il a gagné la Ligue des Champions. Il y a que Pépé, hein, qui fait pareil, qui pourrait prétendre.
Je pense que ça sera dans les trois que je viens de citer. L'ordre, je sais pas, mais je pense quand même que ça sera Ronaldo, Messi et Griezmann. Oui. Je pense.
Griezmann mettrait sur le podium, mais le problème c'est qu'il a perdu lui les deux finales.
Ronaldo les a gagnés, puis bon, Messi revient depuis un petit peu, parce que dans le courant de l'année, il n'a pas été formidable non plus. Là, il revient bien, mais sur l'ensemble, je pense que Ronaldo le mérite quand même.
Il a souvent été décisif, Ronaldo aussi, même la finale indirectement, il l'a joué.
Oui, c'est vrai, sauf hier, il n'a pas trop été décisif face à Barcelone, mais ça c'est...
On va en parler, parce qu'on parlera aussi du Classico, mais on a Florent Baudouin donc au téléphone, le président de la section foot de Rambouillet. Est-ce qu'on entend Florent ? Florent, bonjour.
Bonjour.
Oui, bonjour Florent. Alors, en présentant cette émission, j'ai dit qu'il y aurait une bonne et une mauvaise nouvelle. Hein. Alors, la mauvaise, c'est quoi ? C'est d'abord que le Variété Club de France ne viendra pas la semaine prochaine ?
Tout à fait. Donc, on a malheureusement été obligé d'annuler le match contre le Variété Club la semaine prochaine. Donc, tout simplement par rapport aux consignes de sécurité qui sont mises en place. Donc ils sont un peu fastidieuses et un peu lourdes à gérer pour un club de bénévoles. Donc malheureusement nous n'avons pas eu d'autre choix que d'annuler. Mais bon, mais ce n'est que partie remise, je les ai eu au téléphone et on a reporté ça au mois de septembre-octobre 2017. Donc ce n'est que partie remise.
Oui, parce que Florent, c'est le deuxième report, hein, je crois, du Variété. Il paraît que Jacques Vendroux n'était pas très très content.
Alors, le premier report n'était pas de notre fait, mais comme vous savez, malheureusement, c'était un joueur du Variété qui avait eu un accident sur le week-end d'avant pendant un match. Donc, il y avait eu donc le Variété avait annulé tous les matchs suivants. Et puis là, c'est nous malheureusement qui annulons, mais nous n'avons pas de choix. C'est difficile de mettre en place des mesures. Donc j'ai eu Jacques Vendroux au téléphone et je lui ai expliqué, et il l'a très bien compris d'ailleurs, donc pourquoi on le faisait par rapport à toutes ces contraintes. On devait mettre en place la fouille des sacs, des choses comme ça, et donc c'est assez fastidieux pour un club comme le nôtre où on est une poignée de bénévoles, et là il fallait encore plus de bénévoles parce que ça fait des tâches supplémentaires à faire au club, et donc c'était un peu difficile pour nous.
Oui, voilà,
mais j'ai eu Jacques Vendroux et il a très bien compris. Au départ, en effet, il était un petit peu, je reconnais, pas très content, mais après avoir discuté avec lui, lui avoir expliqué, il l'a en effet très bien compris.
Oui, c'est vrai qu'il aime bien la région. En plus, Jacques Vendroux, voilà, il l'a souvent dit. Et puis, c'est vrai que malheureusement, donc, le report de ce match, hein, bah, ça vient dans une ligne, effectivement, de décision. Là, hier, il n'y a pas eu l'épreuve cyclo du CTR dans le cadre du Téléthon. Il n'y aura pas la semaine prochaine la corrida également prévue pour la course à pied. Et puis, le semi-marathon de Rambouillet en mars prochain n'aura pas lieu. Donc, ça vient dans une succession de décisions, hein, suite naturellement à l'état d'urgence.
Voilà, tout à fait. Alors après, ben, bon, on se plie malheureusement, que ce soit les autres épreuves sportives ou même le nôtre, on n'est que des bénévoles, et donc lorsqu'on nous rajoute des tâches supplémentaires à faire, c'est très difficile à prendre en compte et à le faire.
Donc que les amoureux du foot retiennent bien les dates, il y aura le variété septembre-octobre 2017.
Tout à fait, on en a discuté avec Jacques Vendroux, il m'a dit il n'y a pas de souci, on se reverra à ce moment-là en septembre et octobre 2017, on viendra à Rambouillet avec grand plaisir, il m'a dit.
Parce qu'on sait que les calendriers pour le variété sont figés au moins une saison à l'avance. Hein.
Voilà, tout à fait. Donc là, mais pour l'instant, ils n'avaient pas encore de date, mais il n'y a aucun souci, ils reviendront.
Alors, Florent, l'autre bonne nouvelle, par contre, la bonne nouvelle, c'est l'inauguration de votre nouveau synthétique, qui avait une première inauguration en 2004, et puis on a amélioré ce synthétique avec la semaine dernière, donc une nouvelle inauguration.
Tout à fait, on a la chance maintenant de pouvoir évoluer donc au Vieux-Moulin sur une belle moquette synthétique donc qui a été inaugurée samedi dernier et en présence de la mairie, de monsieur le maire et de madame Boutin. Merci, c'est un grand merci d'ailleurs que je leur ai adressé parce que ben, grâce à eux, maintenant nos joueurs et nos enfants peuvent évoluer sur une surface adéquate. Donc c'est très agréable. Donc on a fait l'inauguration donc samedi dernier.
Oui, et puis on va reconnaître que c'est l'avenir, parce que Saint-Arnoux a aussi inauguré son synthétique la semaine d'avant, ouais, à travers un match d'ailleurs amical avec les Blackstars, équipe qu'on avait reçu au micro-tribune foot il y a quelques saisons.
Mmh. Tout à fait, donc ça fait c'est bien, c'est dans la continuité, dans les clubs qui ont des installations correctes, qui permettent à tout le monde de pouvoir participer. Et donc c'est bien aussi que Saint-Arnoux est un terrain synthétique, en espérant que ça suit dans d'autres clubs également. Bon, c'est un montant, c'est un investissement. C'est pour ça que nous, la mairie, a fait un gros effort là-dessus. Donc, mais c'est vraiment appréciable pour tous les licenciés du club.
Oui, puis c'est vraiment l'avenir, hein, faut le dire, Florent. Hein, si les stades oui, et si les clubs le peuvent, c'est vraiment l'avenir.
Bah, ça nous permet de jouer quasiment tout le temps, par tous les temps. Donc c'est vraiment que bénéfique pour les licenciés. Bon, là, sauf quand il neige, évidemment, où là on ne peut pas jouer dessus, mais c'est vrai que qui pleuve, qui grêle presque, qui gèle, on peut jouer dessus. Donc c'est vrai que c'est vraiment un plus pour les joueurs.
Alors après donc cette bonne nouvelle et après cette mauvaise nouvelle, même si le match a été reporté, ça sera une bonne nouvelle pour septembre 2017. Comment se porte le club là au moment de Noël? Quel bilan peut-on faire de ce début de saison?
Ah oui, c'est un bilan très positif. En termes de licenciés, on est toujours on avoisine les 500 licenciés comme la saison passée. Donc ça c'est positif. On a une école de foot qui a augmenté. On est à plus de 100 enfants au niveau de l'école de foot, donc ça c'est très très positif. Une équipe senior, deux équipes seniors même qui jouent les hauts de tableau, qui jouent la montée, que ce soit l'équipe 1 ou l'équipe 2, donc avec un groupe étoffé à plus de 40 joueurs. Donc ça c'est très très positif, toutes les catégories fournies. Donc non, c'est au niveau du club en lui-même. Le club est structuré. Au niveau du bureau directeur, il y a beaucoup de personnes qui sont là, qui ont des tâches et qui avancent. D'ailleurs, j'en profite pour remercier tous les bénévoles qui œuvrent au sein du club, qui permettent à ce club justement d'avancer. Donc non, ce n'est que bénéfique. Nous avons également, depuis cette année, une section féminine, senior, donc qui a un petit peu plus de mal, mais bon, c'est leur première année à 11, mais elles ont le courage d'être là, elles sont plus d'une vingtaine, et surtout, on a des féminines, des filles de 6 ans jusqu'à 11 ans, Et là, pareil, on en a presque une vingtaine. Donc, on a les filles en plus qui viennent au foot. Donc, le football féminin se développe au SC Rambouillet. Et ça aussi, c'est très, très positif.
Qu'on se le dise, hein.
Ah oui, oui, non, mais voilà, le club avance, le club vit bien. Donc, c'est bien. Moi, maintenant, j'invite tous les gens à venir sur le stade, à venir sur les stades, venir nous voir, voilà. Donc, mais pour nous, c'est pour l'instant cette première partie de saison est très positive.
Il y a eu un effet euro, Florent, à travers donc les pratiquants, les licenciés. On sait qu'après chaque bonne compétition, surtout en foot, il y a une recrudescence des licenciés pour les clubs.
Il y a eu un petit effet euro, en effet, au niveau de l'école de foot. On est passé de 80 à maintenant, je crois qu'on doit être entre 110 et 120 licenciés donc, sur l'école de foot. Donc là, il y a un effet, eu cet effet euro sur l'école de foot. Un petit peu, je pense aussi, quelque part, sur les féminines, parce qu'il ne faut pas oublier aussi qu'il y a l'équipe de France féminine, qu'on parle de beaucoup, qui a des bons résultats, et donc là aussi il y a un effet qui fait tout ça combiné fait que on a un accroissement des licenciés qui arrivent dans notre club.
Très bien, merci Florent en tout cas pour toutes les nouvelles, et puis à très bientôt, ok?
Ben, à bientôt, avec plaisir.
Et puis on se retrouve en septembre ou octobre 2017 pour l'avenue du variété à Rambouillet, ok?
Tout à fait.
Très bien, merci Florent. Voilà donc pour le point, la bonne et la mauvaise nouvelle pour Florent Baudouin. Vous étiez, Francis, à l'inauguration de Saint-Étienne. D'abord un petit mot sur le variété et tous ces reports d'événements sportifs sur Rambouillet. On l'a dit, pas d'épreuve cyclo hier pour le CTR dans le cadre du Téléthon. Match du variété reporté, annulé la course de la corrida qui était prévue samedi prochain. Et puis le semi-marathon qui est traditionnellement l'événement sportif de Rambouillet, il n'y aura pas d'édition 2017.
Oui, je trouve ça un peu dommage. Parce qu'on tombe un peu dans l'excès. Quels sont les risques? Bon, on n'est jamais dans le secret des dieux, mais enfin, moi, je trouve ça un peu surfait.
Mm-hmm. Mais bon, le variété sera là en septembre ou octobre 2017.
Ça sera bien, même, ils évolueront sur une très belle surface. Moi, oui. Comme vous le disiez, j'y étais la semaine dernière, samedi, à l'inauguration, une très belle surface qui coûte très cher. Mais bon, la ville de Rambouillet a eu la chance de programmer ses travaux de longue date avant que les subventions diminuent. Donc, bravo à la municipalité, on peut le dire.
Et on se rappelle qu'on avait déjà été à l'inauguration du premier synthétique en 2004.
Tout à fait, tout à fait.
Ouais. Et puis, Saint-Arnoux a aussi un synthétique. Donc, ça veut dire que c'est vraiment l'avenir partout, quoi.
C'est l'avenir, surtout pour les clubs qui font de la formation, que ça permet aux jeunes d'évoluer partout les temps. C'est ce que disait le président il y a quelques instants.
Mmh. Très bien. Allez, on part sur le Ballon d'Or. Donc, José nous disait que Ronaldo, sans aucun problème. Ça va être pareil, Pierre.
Il le mérite amplement.
Le 13 décembre prochain, Ronaldo brandira son quatrième Ballon d'Or.
C'est sûr, il a tout gagné, puis il a été décisif. Mmh. Moi, je placerais quand même Griezmann deuxième à la place de Messi.
Ouais.
Parce que c'est vrai que.
Oui, c'est vrai, sur la saison, oui.
Sur l'ensemble de la saison, je pense qu'il mérite plus que Messi d'être mieux placé.
Et pourquoi pas Pépé? Parce que le palmarès, il est comme Ronaldo. Hein. Même s'il n'a pas été autant déterminant que Ronaldo.
Ouais, mais c'est.
Qui, même indirectement,
après,
a causé sur la finale de l'Euro.
Il faut voir nouvelles règles. Ouais, parce que c'est vrai qu'avant, les défenseurs pouvaient gagner le Ballon d'Or.
Oui, oui, Cannavaro l'a fait.
Voilà, c'est ça, ou même Sammer, mais.
Oui, Sammer, ouais.
Voilà, c'est ça, mais maintenant. Pépé, il a une image un peu écornée, ouais, donc est-ce qu'il va réussir à être sur le podium? Pas sûr.
Il faut voir la proportion de journalistes espagnols qui voteront pour le Ballon d'Or aussi, parce que
un dans chaque nationalité.
Un dans chaque nationalité.
50 journalistes, je crois, un représentant de chaque
pays. On peut peut-être avoir des surprises, hein, Philippe.
Oh, je crois pas. Sincèrement, je crois pas.
On en reparlera.
C'était la FIFA, mais les journalistes, non, je pense qu'on retient davantage tout les palmarès, parce que c'est aussi l'essence du sport. Hein,
c'est ce qui les fait connaître, c'est sûr. Il y a eu le championnat d'Europe également.
Oui, et puis Ronaldo, indirectement.
Il n'a pas brillé tout de même.
Ah, il a été décisif contre le Pays de Galles quand même. Hein.
Il a été quelconque.
Il m'a triplé contre la Hongrie, je crois.
Oui. Donc, sur l'ensemble de la compétition, il est champion d'Europe avec les Portugais.
Je crois que c'est lui qui fait gagner.
Ah oui, indirectement.
Par contre, au niveau des journalistes, s'il y a un journaliste irlandais, je pense qu'il votera pour lui. Parce que il y a un scandale en vue là très prochainement.
Et je pense que là, peut-être que l'image du futur Ballon d'Or, ex-Ballon d'Or, multiplié par, va peut-être être un peu écornée. Si ce qui est dit s'avère véritablement la vérité, là, pour le coup, je veux dire, on en prend un coup. Parce que, franchement, ces modèles qui sont des exemples pour nos enfants, même pour nous, là, franchement, si ce que j'ai entendu hier s'avère être vrai...
Oui, apparemment, il y a un problème de...
Franchement...
d'argent placé.
C'est juste colossal. Quoi,
il
c'est,
il on a parle dissimulé de l'argent fiscal espagnol, 150 millions d'euros.
Alors, il y a une partie où il avait le droit, mais il y en a une grosse partie.
C'est pas réellement lui, apparemment. C'est plus.
Jorge Mendes.
C'est voilà, plutôt son manager, oui, je pense. Et de toute façon, il n'y a pas que lui. Il y a beaucoup d'autres joueurs qui sont.
Alors, c'est peut-être des mauvais placements qu'on leur a fait faire à travers quelques agents véreux. Voilà. Mais enfin, bon, c'est une affaire à suivre. C'est en dehors du sport, naturellement.
Mais Messi aussi a des problèmes avec le fisc déjà depuis. De longue date, on va dire.
Nous, ce qui va nous intéresser,
c'est le niveau sportif.
C'est ce qui intéresse les gens, mais est-ce qu'un ballon d'or, c'est pas aussi quelqu'un d'exemplaire?
Absolument, c'est vrai.
Donc
c'est
voilà, je me permets juste de dire ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, il va y échapper.
C'est vrai qu'au niveau de la moralité, c'est.
Voilà quoi, c'est un petit peu dommage, mais bon, c'est la vie moderne apparemment.
Très bien, bah tiens, justement, on parlait de l'image, hein. Bah, y avait les prix nationaux du fair play, c'était cette semaine à la Maison des Sports, donc à Charletti, hein, à Paris, c'était jeudi dernier, c'est une manifestation à laquelle on est souvent allé dans le passé. Je vais vous donner les lauréats. L'attitude fair play, c'était le prix Micheline Ostermeyer, il n'y a pas que des footeux, hein. Eh bien, c'est Mélina Robert Michon de l'athlétisme qui a obtenu le gros lot. Dans le prix Colette Besson pour l'esprit sportif, c'est Sarah Ouramoun, la boxeuse donc médaillée aux Jeux Olympiques, qui a été sacrée pour la carrière. Et pour le prix Jo Mazo, c'est Jacques Brunel donc qui a été honoré. Carrière sportive, prix Christian Carrère, Riyad Salem en handisport a été donc récompensé. Prix Patrice Martin, c'est Jean-Yves Le Floic en athlétisme. Prix Daniel Constantini pour la carrière d'éducateur, c'est Claude Sagna. Le prix Gérard Quintin revient à Cédric Martin pour le football. Et puis carrière dirigeant, prix Fernand Sastre, on y revient, c'est Serge Lard du rugby qui a été récompensé. Et puis pour les pour le promotion de l'esprit sportif et du code sportif, prix Albert Bégard, c'est madame Marie-Josée Lalard qui a donc été récompensée. Puis pour promotion de l'esprit sportif, prix Nelson Payou, Noël Mazuko-Telli pour le basketball, donc décroche la palme. Et puis défense de l'esprit sportif, prix Jean-Paul Brouchon, c'est Odile Chauvet en tennis qui a obtenu donc la récompense. Juge et arbitre, tiens, prix Bruno Derrien, on y revient dans le foot, c'est Giovanni Boggia en boxe qui a été donc récompensé. Et puis l'esprit sportif dans les médias, prix Jacques Marchand, c'est le sport Icom INSEP qui a obtenu le trophée. Et enfin le prix spécial du jury, prix Henri Serrandour, citation spéciale, elle est revenue à François Alaphilippe, l'ancien président de la Fédération Française de Cyclisme. Et enfin, prix spécial du jury, prix Alain Calma, c'est Pascal Gentil qu'on avait croisé à l'Euro de foot, qui a donc l'ancien champion de taekwondo, qui a donc obtenu la récompense. Allez, la pub, la musique, et ensuite on va commenter l'actu de la Ligue 1, des Coupes d'Europe et de l'équipe de France.
Artisan, chef d'entreprise, dirigeant de PME, Amplitude Service, récemment installé dans la vallée de Chevreuse, réalise tous vos travaux de secrétariat. Rédaction de documents, devis, factures, relance client, recouvrement. Vous souhaitez faire le point sur vos frais de structure, étudier l'opportunité de réduire vos coûts ou encore optimiser vos outils d'administration. Amplitude Service dispose des compétences nécessaires pour organiser votre gestion d'entreprise avec la possibilité d'intervention directement dans vos locaux. Spécialiste depuis plus de 15 ans dans la gestion des services administratifs et des moyens communs du second œuvre, Amplitude Service a créé des offres de services adaptées à vos besoins. Amplitude Service s'occupe aussi de vos événements d'entreprise. Alors n'hésitez pas à nous contacter au 06 63 44 05 90 ou sur www.amplitude-service.fr et bénéficiez de la remise promotionnelle dans le cadre de l'ouverture de nos locaux de rue de Paris à Chevreuse. Pour vos travaux de secrétariat et d'organisation d'entreprise dans les Yvelines, l'Essonne, les Hauts-de-Seine et l'Eure-et-Loir, une seule solution. Amplitude Service.
Il est fissuré, la peinture s'écaille, votre plafond vieillit. Creative Design lui donne un coup de jeune et le remplace par un magnifique plafond tendu. Quelle classe! Sans odeur ni poussière, sans déménager, Creative Design vous en assure la pose dans la journée. Fini les plafonds abîmés, cloqués ou humides. Avec Creative Design, votre plafond tendu mat, satiné ou brillant, garanti 10 ans, est tout simplement superbe. Appelez vite Creative Design pour un devis gratuit au 01 58 88 21 20 58 88 21 20.
Le meilleur de la Bretagne est à la crêperie Tibilig. Galettes, crêpes, salades et glaces à base de délicieux produits frais. La crêperie Tibilig vous accueille du mardi au samedi avec sa carte et ses menus. Venez passer un moment agréable et détendu autour d'un bon repas à la crêperie Tibilig. 13 place Félix Faure à Rambouillet. Réservation 01 30 46 23 11.
Pour me montrer ce qu'il faut faire pour être grand, qui peut changer ce que je porte dans mon sang, qui a le droit de m'interdire d'être vivant, de quel côté se trouvent les bons ou les méchants, leurs évangiles ont fait de moi. La vie ne m'apprend rien. Je voulais juste un peu parler, choisir un train. La vie ne m'apprend rien. J'aimerais tellement m'accrocher, prendre un chemin.
Région avec RVE.
Voilà, n'oubliez pas, hein, la podcast, donc dès cet après-midi, hein, le podcast de cette émission, comme toutes celles des semaines précédentes. Alors, on parlait il y a un mois de Nice, on s'était dit, vont-ils créer l'espoir, vont-ils faire la surprise? Et puis Nice a été battu le soir même, ils ont perdu des points contre Bastia. Paris Saint-Germain avait plutôt fait une belle saison, une belle semaine en allant gagner à Lyon, en allant faire un nul tout à fait donc mérité, c'était moins qu'on puisse dire, à Arsenal. Et puis hier, bing, badaboum, Paris Saint-Germain très sévèrement battu à Montpellier 3-0. Finalement, je vous repose la même question. Est-ce que Nice ne va pas tenir, messieurs?
Le mois dernier, j'étais le seul à dire qu'ils allaient tenir.
Bon, puis après, ils ont perdu des points. On dit ça, voilà. Ils sont battus.
Je pense que là, ils ont un peu baissé de pied. Oui. Ils sont un peu dans le dur.
Mais Paris a été battu.
Voilà. Après, Monaco carbure pas mal, même s'ils ont fait match nul en semaine à Dijon.
Oui. Ils ont laissé échapper des points aussi, Monaco.
Mais je pense que la trêve va faire le plus grand bien à Nice et pour recharger les batteries. Puis après, ils vont repartir, mais ça va être difficile. Là, il y a un trou qui est fait, mais ils vont rester dans les trois premiers. Mais être champion, c'est vrai que ça va être compliqué maintenant.
Oui, alors avant les matchs de ce soir, Monaco et Nice ont 36 points et le Paris Saint-Germain 35. Après, le trou est fait avec Guingamp, le quatrième.
Quatrième, oui. Je suis comme Pierre, mais moi, j'aurais peut-être un avis inverse. Je pense pas que Nice aille au bout. Et je sais même pas s'ils finiront dans les trois premiers. Je veux pas être défaitiste, mais pour l'instant, ils sont dans une bonne dynamique, mais la trêve peut changer beaucoup de choses.
On disait ça à Montpellier en 2012, hein.
Oui, c'est vrai aussi, mais bon, entre nous, vu les moyens qu'ils ont, ils mériteraient peut-être, ça serait bien que quelqu'un qui ait moins de moyens que les deux gros aille quand même au bout, mais je pense pas.
Alors, José Paris avait plutôt bien négocié sa semaine. Ils avaient battu, ils avaient été gagnés à Lyon 2-1 après un nul. Où ils doivent en principe même gagner le match à Arsenal 2-2.
Oui, hier.
Ensuite ils battent Angers tout à fait logiquement. Puis hier, un gros coup d'arrêt.
Hier, ils sont passés carrément à côté du sujet. Ouais. Matuidi l'a dit en interview à la télé. Et ils étaient carrément à côté. Ils ont fait un non-match. Et Montpellier en a profité. Et c'est très bien.
Mais j'étais pas dedans. Hein, l'entraîneur l'a dit. Hein, on a regardé ça.
Je trouve quand même que depuis le début de la saison, ils sont moins sereins. Bon, moi, le premier, je n'aimais pas trop Ibra. Mais il a porté quand même quelque chose. C'était un bagarreur et il aimait. Il avait la culture de la gagne. Alors que là, il y a peut-être quelque chose qui se passe. Peut-être l'entraîneur n'est peut-être pas encore n'a pas encore pris ses repères. Mais bon, ça fait quand même maintenant un bout de temps depuis le mois d'août qu'il est là. Il serait peut-être temps qu'il commence à prendre le jeu n'est peut-être pas le même qu'en Espagne quand il était à Séville, mais il va falloir qu'il s'adapte très vite, sinon le PSG risque des déboires quand même assez conséquents.
Boris,
oui.
T'en penses quoi? Nice va tenir, c'est un coup d'arrêt pour le Paris Saint-Germain ou c'est un accident de parcours dans une période quand même qui avait été plutôt favorable quand même, hein. Paris avait plutôt bien négocié ses matchs précédents.
Alors pour répondre sur Nice, je pense que l'effectif niçois va pas permettre à mon avis d'avoir une saison complète.
Balotelli peut-être.
Et je pense que l'effet Balotelli va s'estomper à un moment ou à un autre. Je pense que d'ailleurs il est presque déjà terminé. En niveau valeur, je les ai regardés jouer, ils ont un bon niveau, ils ont gagné un Guingamp 1-0, mérité pas forcément.
Ah, c'était pas évident.
C'est pas évident, mais c'était pas forcément mérité. Je pense que je suis d'accord avec José, je les vois pas vois pas du tout sur le podium. Quant au Paris Saint-Germain, moi, ce qui m'étonne surtout, la difficulté d'Emery, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, en termes de qualité, au niveau du banc, que ce soit des joueurs comme Gézé ou Krikoviak, c'est très faible.
Oui, Krikoviak, pas terrible.
Le problème, c'est qu'il se retrouve à jouer avec la même équipe depuis le début de saison.
Peut-être pas gagné le coup d'or, pas avec ça.
Et il a pas mis Ben Arfa dans des conditions. Parce que Ben Arfa, c'est un affectif. Et depuis le départ, je trouve qu'il a très mal géré le cas Ben Arfa, qui est un très bon joueur, mais qui aujourd'hui végète et donne pas ce qu'il a à donner. Je pense que c'est plus psychologique. Et Emery, au niveau psychologique, je pense qu'il est pas bon. Voilà. Donc aujourd'hui, ils sont en train de jouer à chaque fois. Le match d'Arsenal a été exceptionnel. Ils sont en train de jouer avec les mêmes joueurs aujourd'hui, les Matuidi, etc. Tout le temps la même équipe. Et puis il y a un moment, les Marquinhos, les Lucas, et comme hier, Marquinhos, il a flanché complet, quoi. Voilà, ils sont plus
c'est
là.
Rare quand même de la part de Marquinhos.
C'est rare, mais au bout de quand tu joues 3 ou 4 matchs en 8 jours, en 10 jours, il y a un moment, je pense que c'est bien de faire tourner. Pourquoi hier il met pas Gézé d'entrée de jeu et Ben Arfa d'entrée de jeu? Histoire de faire souffler un petit peu des gens comme Lucas qui est à bout de souffle, Lucas, aujourd'hui. Mmh. Parce qu'il donne, il donne de partout.
Il a fait un bon match Arsenal.
Il fait que des bons matchs, mais il a fait un bon match Arsenal. Et Krikoviak, c'est une catastrophe. Je veux dire, il le ramène de Séville, il a le niveau de Reims qu'il avait, par contre, qu'il avait il y a 4 ans.
Non, la, la bonne satisfaction, c'est quand même Cavani. Il marque, il a presque un but en moyenne par match. Oui, non, mais bon.
Il y a quand même. Il dépassera le nombre de buts.
Oui, non, mais quand même, bon. Il tient promesse. Il en aura beaucoup, mais il marque beaucoup. Donc au moins, il remplit son contrat.
C'est bizarre. C'est vraiment très bizarre. Je m'attendais, la dernière fois que j'en ai parlé, Emery, je trouvais que c'était super sympa. Mmh. Il avait lancé dans le grand bal gardien français qui est un bon gardien et tout. Mmh. Mais là, il y a un moment Areola, il faut qu'il fasse tourner. Même Areola, il faut qu'il fasse tourner. Mmh. Je veux dire, j'ai l'impression que c'est pas un bon gestionnaire de groupe.
Et puis c'est vrai que le bon Di Maria, donc Rabiot, Pastore blessé.
Oui, d'accord, mais je crois que même si ce sont des bons joueurs, regarde Aurier, il faut le faire tourner. Il y a des joueurs, il faut les faire tourner. C'est pas possible.
Meunier a pas été mal.
C'est un bon joueur, Meunier. Ouais. Je comprends pas dans sa gestion de. Je trouve que finalement Blanc, je l'ai un peu critiqué, mais finalement il gérait mieux les alors pas forcément dans un match, mais la tournée des joueurs. Je trouve que voilà quoi. Mmh. Là on voit les mêmes. C'est Thiago Silva, c'est Mota, c'est Marquinhos, c'est Aurier, mais est-ce qu'ils vont tenir toute la saison ces joueurs-là?
C'est vrai.
Faut pas que Cavani se blesse. Hein.
Ah non mais ça.
Sinon c'est la catastrophe.
Convaincu. Hein. Voilà. Bibi, est-ce que Paris s'est pas trompé dans son recrutement?
Non, je pense pas. Enfin, de toute façon, on savait qu'avec le départ de.
Pour jouer une Coupe d'Europe, est-ce que c'est pas un peu léger quand même?
Si, c'est léger.
Enfin, Cavani qui marque des buts se blesse, c'est fini. Hein. Il y a plus d'attaquant.
Tout à fait. Et puis là, de toute façon, là, on est en train de parler de Paris. Bon, ils sont deuxième. La chance qu'a Paris cette année. Tout comme Monaco. Non, Monaco est quand même une équipe qui tourne.
Quand même.
Mais la chance qu'ont Paris et Nice, parce que je pense que le trio restera comme ça.
Oui, mais Nice va
être non, je pense pas. C'est tellement mauvais derrière. C'est tellement faible. On parle de Nice qui a gagné à Saint-Étienne. Oui, mais heureusement, enfin, c'est tellement faible. Si les Verts gagnent ce soir, ils sont cinquièmes. Oui, mais quelle pauvreté! Quelle pauvreté dans le jeu! Tous ceux qui sont derrière ce trio, allez, il y a Guingamp qui flambe en ce moment, mais que ça soit Lyon, Marseille, Bordeaux, Saint-Étienne, qu'est-ce que c'est pauvre!
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et pourtant,
et Saint-Étienne, ils sont qualifiés en Coupe d'Europe, c'est quand même le seul club français en Ligue Europa. Mm-hmm. On est tous contents.
Mais c'est vrai que
qu'est-ce qu'on s'emmerde quand
qu'est-ce
on
qu'on s'emmerde
c'est vrai, c'est vrai.
Donc Paris va peut-être bénéficier de ça. Le recrutement, il est très bon pour le championnat français. De toute façon, ça fait des années que je dis que pour faire quelque chose en Europe, il faut quand même acheter des grands joueurs. On n'a pas les capacités en France, on sait pas. En ce qui concerne Paris, ils ont les moyens. Est-ce qu'ils font les mauvais choix? Bon, je pense. Mais après, voilà, la pauvreté du football français.
L'avenir le dira, hein, c'est les résultats qui, en fin de saison, parleront. Hein,
ouais, mais je pense que, de toute façon, sur championnat de France, j'ai plus confiance en Monaco. Bon, on s'éclate un peu, il marque des buts, il cartonne.
Et puis,
voilà.
En termes d'effectifs et de profondément, Monaco, les doublons sont aussi bons que les joueurs titulaires. Hein. Mm-hmm. Franchement, il n'y a pas d'écart entre les joueurs. Il hein. y a un groupe de 20 joueurs. Très homogène. Hein. Moi, je ressors pas beaucoup d'individualité du groupe monégasque.
Alors, comment vous expliquez que Paris Saint-Germain et Monaco vont pratiquement assurer la première place de leur poule en Coupe d'Europe, hein? Monaco a battu Tottenham 2-1, donc Monaco est déjà qualifié pour la première place avant son match contre Leverkusen. Et puis Paris est allé faire un nul tout à fait logique, mérité, c'est la moindre des choses. Hein. Arsenal 2-2, Paris aura même dû gagner ce match avec le goal average particulier. Finalement, Paris va finir devant donc Arsenal avec puisqu'il y a un match contre Hugo Corret, donc ça devrait le faire pour Paris Saint-Germain. Donc, y a quand même des bonnes indices UEFA là.
C'est bien. C'est surtout surprenant de la part de Monaco parce que le groupe était homogène. Ils pouvaient terminer premier, comme je pense qu'ils auraient pu terminer 3 ou 4e.
Donc c'est plutôt positif. Là, on a un championnat très moyen et on a quand même des bons résultats.
C'est pas forcément évident d'avoir des bons résultats en championnat puis en même temps en championnat.
À Monaco, on peut noter le bon retour de Ramadel Falcao qui revient bien. Il a un bon niveau qu'il avait peut-être pas il y a 4-5 ans, mais il revient à un très bon niveau quand même. Il a fait un doublé encore hier soir et hier après-midi.
L'avantage de Monaco, c'est qu'ils sont nombreux à marquer. Il n'y a pas qu'un seul joueur.
Ils ont la meilleure attaque d'Europe avec 49 buts.
Alors Francis, le championnat Nice va tenir, et puis pourquoi, malgré un championnat très moyen, on a quand même des bons indices UEFA ces derniers temps?
Oui, mais Nice se maintiendra dans les trois premiers, je pense. Mmh. Mais le titre se jouera entre Monaco et Paris Saint-Germain.
Oui, c'est la régularité quand même. Hein. Monaco est là depuis deux ans, Nice aussi aux quatre premières places. Donc c'est des clubs quand même qui étaient là, qui ne sont pas des clubs qui sortent une saison comme ça. Quoi.
Oui, non, mais le bon côté pour Nice, c'est qu'ils ont un beau stade et qu'ils ont du public maintenant. Mmh. Moi, j'attire toujours l'attention des scores du public sur les matchs, parce que bon, on avoue tout de même qu'en France on n'a pas une influence extraordinaire, et que ça me fait plaisir de voir des stades pleins.
On est en baisse alors qu'on a fait l'euro chez nous, c'est quand même assez incroyable.
Il
y a trop de matchs à la télé.
Ce qui peut peut-être nous étonner nous étonner avec ces équipes là c'est qu'elles ont moins de moyens, et donc elles arrivent en haut de l'affiche, et on s'étonne, mais au niveau football, ils pratiquent un football à peu près correct, et avec très peu de moyens par rapport aux deux premiers.
Si on regarde en Europe, c'est pareil en Allemagne. Hein. Oui, oui, oui. Il y a un leader juste improbable, donc il y a peut-être aussi des remises en question à faire. Hein.
Alors, on parlait justement des Coupes d'Europe. Lyon va-t-il le faire contre Séville, hein? Lyon qui est en milieu de tableau en championnat, c'est ce qu'ils vont jouer à peu près. Donc ils ont gagné à Zagreb 1-0. Il leur faut battre Séville par
même
deux. Ils sont troisième pour l'instant.
Même s'ils gagnent, après, ça dépend du match de la Juventus.
Oui, parce que la Juventus a 11 points, Séville 10 points, et puis il faut que Lyon gagne.
Non, si on avec deux points d'écart. Avec deux buts d'écart, c'est...
Oui, c'est bon. C'est-à-dire qu'ils reviennent à la hauteur de Séville, donc il faut qu'ils gagnent. Ils reviennent à 10 points, il faut qu'ils gagnent.
Ça va être compliqué. Séville, c'est une très bonne équipe. Mm-hmm. C'est une équipe qui est.
Personnellement, je pense pas qu'ils vont le faire, hein, Lyon. Hein. Mais bon, voilà.
Ça va être difficile, un exploit est possible, parce que Lyon, ces derniers temps, ils jouent bien, ils jouent mieux qu'en début de saison. Mm-hmm. L'effectif est revenu au complet. Après, c'est vrai que Séville, c'est une équipe qui est faite pour la Coupe d'Europe. Elle a toujours été brillante dans ses compétitions. Ça va être compliqué, mais c'est possible. Si le match s'emballe et qu'il marque tôt dans le match, pourquoi pas.
En tout cas, Lyon n'a pas fait un mauvais parcours dans cette Ligue des Champions. Hein. Paradoxalement, ils n'ont pas fait des mauvais matchs. Ils ont perdu de pas grand-chose, souvent.
Le but, quand ils égalisent à la Juventus, fait beaucoup de bien. Parce que après, ça permet d'encore espérer. Puis après, ils sont allés gagner à Zagreb, malgré un match compliqué. Et puis là, ils sortent encore meilleurs de ça, et ça les a redynamisés, même pour le championnat.
Donc Lyon, peut-être en Europa League avec Saint-Etienne, Bibi, puisqu'on l'a dit, Saint-Etienne qualifié 0-0 contre Mayence. C'est l'équipe des Machuls, Saint-Etienne, hein, en Europa League. Il y aura un Anderlecht Saint-Etienne.
Enfin, on a quand même eu deux victoires contre.
Ouais. Mais bon, il y aura un Anderlecht Saint-Etienne pour la première place. Mais quoi qu'il arrive, Saint-Etienne est déjà qualifié.
Équipe régulière, ça fait 6 ans que les Verts sont en Europe.
Ouais. Mais attention, après.
Oui, mais fait deux années qu'on passe. Après, ça sera dur, mais pourquoi pas. Bon, on a toujours notre problème d'attaque, parce que malheureusement, Beric est blessé. Il parle d'un renfort au mercato. Mmh. Mais les Verts, je pense qu'ils ont leur chance, on n'ira pas au bout, parce qu'il y a quand même des gros calibres. Mais pourquoi pas. Mmh. Voilà, puis ça montre la régularité d'un club sans moyens.
C'est vrai. Nice éliminé par contre. Schalke 0-4 a gagné 2-0. Donc Nice,
c'est dommage.
Dernier,
c'est même
paradoxal. Ça, ouais. Je l'ai dit le mois dernier. Ils sont en tête du championnat, mais par contre, ils sont très loin en Europa League, en 32e de finale. Ils s'arrêtent, quoi.
Tu peux pas jouer sur les deux tableaux avec l'effectif qu'ils ont.
C'est pas possible. Comment font les Verts?
Oui, mais les Verts. Enfin bon, Bibi, on va pas se la réinventer. J'ai vu quelques matchs. Honnêtement, non mais on parle de Mayence.
Ils avaient quoi dans leur groupe? Ils avaient quoi dans leur groupe Nice? Je veux dire.
Ce que je veux dire, c'est pas beaucoup plus fort. J'ai l'impression que c'est le même niveau. Il y a pas.
Et Nice, ils ont eu 5 défaites.
Oui,
5 défaites. Voilà, donc à un moment.
Pratiquement, oui.
Voilà. Les gars, ils tombent toujours dans des cadors. Quand c'est Saint-Etienne, on tombe contre. Il y a Anderlecht.
Peut-être que le niveau européen est peut-être plus élevé que le championnat français. Je sais pas.
Je sais pas quand même.
À voir. Je pense.
Non, c'est moi, je pense que le choix avait été fait d'entrée.
Ils ont vu qu'ils se flambaient
en championnat, puis ils ont perdu chez eux à domicile contre Schalke. Donc ils ont lâché d'entrée. Après, Saint-Etienne, c'est aussi un club qui aime beaucoup l'Europe.
Oui.
Devant leur public, ils aiment bien faire plaisir au public, même si c'est compliqué vu les matchs.
Saint-Etienne 0-0 contre Mayence, ça aurait pu faire le match.
Ouais, bien sûr. Ouais, et puis même contre Anderlecht.
Faut voir le niveau, quoi.
Oui.
C'est... À un moment, ils passent, ils peuvent.
Je vais te dire ce que je pense de Saint-Etienne.
J'arrive pas à prononcer son nom. Le petit club, c'est pas Karabakh, c'est.
Kabbalah.
Vous les avez vus jouer?
Ah, ils sont bons.
Des petits Brésiliens. Je suis sûr qu'il y a, il y a plus d'une équipe française qui aurait pris des branlées contre eux.
Ils ont sauté l'île.
On les a gagnés deux fois de suite.
L'île, hein. Ils ont sauté l'île au terrain.
Et voilà, ils ont sauté l'île au truc. Et c'est des petits Brésiliens,
non,
les gars.
Non, mais. On parle au Kabbalah, quoi.
C'est... Mais oui, mais.
Non, mais Saint-Etienne, tu peux dire, ce que tu veux.
C'est des gars qui éliminent l'île, quand même.
D'accord, mais.
Je veux dire.
L'île, c'est. Voilà, quoi. Regarde, l'île, ils sont combien?
Alors justement,
ils reviennent, Saint-Etienne, tu peux pas leur enlever leur combativité quand même. Ils ont mis beaucoup de buts en fin de match.
C'est ce qu'ils font.
Et au moins, ils se battent. Après, il leur manque un attaquant. C'est sûr, Berich, il se blesse tout le temps. Et puis Sunderland, il est pas au niveau.
Ce qui fait surtout peur avec Saint-Etienne, mais c'est vrai, on peut rien leur relever. Ils ont un entraîneur extraordinaire, ils ont des joueurs.
Et on a le meilleur gardien de France.
Par contre, ce qui me fait peur.
On a le meilleur gardien de France.
Ce qui me fait peur pour eux, c'est que c'est une équipe, à mon avis. Il va falloir renouveler le cheptel parce que les Perrin, les Ruffier et autres, j'ai peur qu'à un moment,
que tout ça
s'arrête et qu'on retrouve Saint-Etienne un peu comme Nantes aujourd'hui en difficulté. Mais bon, il y a des bons patrons à la tête de ce club, il y a un entraîneur exceptionnel. Je pense qu'ils y réfléchissent quand même.
Alors justement, on va en parler parce que les clubs mal classés, Dijon et Nancy, ils sont 15e avec 16 points, Caen 17e, 15 points, Bastia 18e, 14 points, Nantes 19e, hein, Nantes qui s'est séparé de René Girard avec 13 points, et Lorient 20e avec 12 points. C'est vraiment très serré pour le maintien, mais bon, on voit des clubs comme ça, comme Nantes, c'est quand même navrant qu'un club comme ça ait du mal à se relancer depuis
Nantes,
quelques années.
Nantes, c'est n'importe quoi. Nantes, c'est le problème Valdemar Quitte. Il va falloir qu'il vende le club et qu'il s'en aille. Parce que mais dès le départ, quand il a pris Girard, c'était couru d'avance qu'il allait jamais rester cet entraîneur. Personne ne le voulait. Les spectateurs, ils n'étaient pas du tout contents qu'il vienne. C'était couru d'avance que ça allait mal se passer et ça s'est mal passé.
Et ça s'est mal fini pour Girard partout. Même s'il a été champion de France avec
bien sûr.
Mais après, ça s'est moins bien terminé.
C'est un entraîneur à l'ancienne. Et comment il se comporte avec les médias, comment il se comporte avec son groupe. Il a fait un mauvais choix quittant le prenant.
Que tu mettes Girard ou que tu mettes Galtier à Nantes, je suis pas certain qu'il y ait de meilleurs résultats. Hein. Mm-hmm. Parce que regarde l'effectif nantais. Au papier, ça peut pas jouer au-dessus de la 15e place. Regarde ligne par ligne. Sortez-moi un joueur qui va avoir sa place
Je suis d'accord avec toi, Boris, mais tu peux pas prendre 6-0 chez toi contre Lyon.
Quand t'as des joueurs aussi faibles que
c'est qu'il y a un problème dans le groupe. C'est psychologique aussi. Dijon, ils ont un effectif qui est peut-être un peu moins bien que Nantes aussi.
Dijon, c'est leur première année en Ligue 2, on en reparlera l'année prochaine.
En Ligue 1, ils étaient déjà descendus, ils sont remontés.
Ils ont du cœur, là, ils ont Santini, leur avançante. Il a marqué un but exceptionnel, un contrôle et tout. Mais toutes les équipes dont on parle, de Lorient, même je vais chercher jusqu'à Guingamp, jusqu'à Guingamp presque. C'est triste, quoi. Il n'y a pas de. Que ce soit Lille, Bordeaux, tout ça.
Oui, mais après, t'as des coups. Je veux dire, Guingamp, ils font un bon recrutement depuis 2-3 ans. Ils prennent des joueurs comme Briand, qui sont revanchards, en fait, si tu veux. Ils vont chercher ça, et puis ils ont un entraîneur comme Comboiré. Voilà, c'était compatible. Girard à Nantes, tout le monde le savait, les spécialistes, c'était pas fait pour s'entendre.
Après, Valdemar Quitte, il est ce qu'il est, mais le mec, il a mis un peu d'oseille dans le club.
Et ça fait quelques années.
Je me mets à sa place, le pauvre mec. Alors, il a fait sûrement des erreurs, on en fait tous. Hein. Mais alors, je vais te dire, il a envoyé des dizaines de millions d'euros depuis qu'il est au club, et le mec, il se fait insulter, c'est tout juste, il se fait pas démonter la tronche à la sortie. Mais il y a un moment. Il a fait
beaucoup trop d'erreurs
parce qu'il aurait dû faire venir des gens même de l'extérieur et puis se désengager. Un peu ce qu'a fait Margarita Louis Dreyfus. Mais franchement, le mec, chapeau. Hein.
Il est certainement mal conseillé également.
Le problème, il n'est pas bon. Mais il y a un moment, qui veut y aller à Nantes? Veut investir dans le club?
Oui, bien sûr, mais il y a eu des problèmes avec Darzakarian il y a quelques années. Il faut qu'il passe la main. C'est plus possible.
Personne ne veut l'acheter.
Bien sûr, ça va être compliqué. Il va falloir qu'il fasse attention à qui va reprendre le club, etc. Mais là, c'est plus possible. Ça arrivait à un point de non-retour. Les spectateurs, ils ont voulu aller le tabasser dans le stade la dernière fois. Enfin, c'est plus possible.
Mais c'est pas nouveau, hein, Nantes. Hein, parce qu'on sait que Fabien Barthez était parti aussi sous les huées et qu'il n'est jamais revenu. Metz, Lyon, je voulais qu'on en parle parce que ça a été le match de la honte hier. Hein, ce qui s'est passé.
C'est vraiment honteux.
Ouais, c'est honteux. Et malheureusement, Metz menait 1-0. Il risque de perdre le match sur tapis vert. Hein.
Oui, tout à fait.
C'est une véritable honte quand même. Hein,
c'est une honte. Il y a vraiment des imbéciles dans tous les stades, franchement.
Lancer des pétards, bon.
Lancer des pétards, alors qu'on mène, franchement.
Oui, et puis Lopez donc a été blessé. Bon, apparemment ça va mieux. Et puis il y a le soigneur aussi. Hein,
qui a il y a le soigneur. Qui, ouais. Oui, il y a Peter qui a pris du médecin qui a éclaté.
Il faut sanctionner durement.
Oui, bah, ah oui, oui.
Sanctionner durement si on arrive à identifier le coupable. Hein, parce que bah, bon, on va sanctionner le club comme d'habitude, mais bon, c'est problème d'individualité.
Apparemment, ils ont déjà trouvé, déjà trouvé un coupable.
Ouais.
Le problème, c'est qu'il faut faire le ménage dans ce. Dans ces groupes de supporters, je suis bien placé pour parler.
Oui,
nous, on a fait nos 25 ans, les tribunes étaient illuminées avec les artifices et tout ça. Bon, c'est contrôlé, c'est géré. On a pris des amendes parce que bah, c'est comme ça. Mais voilà, mais il faut virer tous ces pseudo-supporters qui foutent
parce
la
honte. Ça fait de la contre-publicité. Voilà. C'est ce qu'on voit bien en sûr. Boucle sur toutes bien les sûr. Chaînes d'info bien actuellement.
Bien, bien sûr, bien sûr.
On est montré du doigt là, sur le foot.
C'est peut-être les points qui vont manquer à Metz en train de
ah, absolument, oui, tout à fait. Absolument. Pour un imbécile, et ben voilà, c'est peut-être.
Ouais. Parce qu'entre le quatrième et le dernier, il n'y a pas une grande différence.
Mmh. Allez, on va marquer la pause musicale, la pub, et ensuite, bon, on parlera du classico espagnol hier, et puis bah, aussi des bons résultats de l'équipe de France, hein, plutôt bien parti pour la Russie.
La Cime Verte et la Gage vous proposent un travail soigné et en toute sécurité. Vous souhaitez changer l'image et la luminosité de votre jardin ? La Cime Verte vous conseillera sur l'élagage et les soins à apporter à vos arbres. Comment les tailler ? Quelles sont les périodes à respecter selon les essences ? Et répondra ainsi à toutes vos questions. La Cime Verte, votre professionnel de l'élagage, 71 bis, rue de la Grange-Colombe, à Rambouillet. 01 30 46 23 36 ou www.lacimeverte.com.
Bienvenue au Royal de Gazeran à Rambouillet, zone du Bel Air, face au magasin Feu Vert. Votre restaurant vous accueille dans un nouveau cadre convivial, avec un espace enfant, pour un moment entre amis ou en famille, 7 jours sur 7, midi et soir. Le Royal de Gazeran vous propose son buffet à volonté. Entrée, plat, dessert tous les jours. Et aussi la livraison à domicile sur royaldegazeran.fr. Le Royal de Gazeran, zone du Bel Air, 7 rue Gustave Eiffel à Rambouillet. Téléphone 01 30 41 78 88.
Maison Conforme, cabinet d'expertise en technique de construction, mais ses 25 ans d'expertise à votre service. Maison Conforme défend vos intérêts lors d'expertise construction, d'assistance à réception, d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Maison Conforme, la solution aux soucis de construction. Pour plus d'informations, maisonconforme.fr ou 06 50 28 65 34.
Nouveau à Rambouillet, 12 rue Georges Clémenceau, Imagink, votre nouveau salon de tatouage et de piercing ouvert du lundi au samedi de 10h30 à 19h. Imagink vous accueille et vous accompagne dans vos projets de tatouage et de piercing, de l'imagination à la réalisation. Imagink, 12 rue Georges Clémenceau à Rambouillet, téléphone 09 86 09 35 35 et sur Facebook Imagink 78.
Il mélange au fond de sa tasse du miel. Il regarde par le vasistas le ciel. À chaque fois que passe un avion, il se dit que c'est peut-être elle qui passe au-dessus de sa maison. On lui a dit qu'elle était au ciel. Il rêve couché sur un parquet, dans les bras de sa mère, dessiné à la craie. Tous les soirs en secret, ce dessin il le fait, trait pour trait, à partir d'un portrait. Il rêve couché sur un parquet, dans les bras de sa mère, dessiné à la craie. Tous les soirs en secret, ce dessin. Il rêve couché sur un parquet, dans les bras de sa mère, dessiné à la craie. Tous les soirs en secret, ce dessin il le fait, trait pour trait, à partir d'un portrait. Il rêve couché sur un parquet. partir d'un portrait.
Vivez le sport dans votre région avec RVE.
Bon, alors on parlait d'un championnat très moyen au niveau de la Ligue 1 en France, c'est pas une surprise, hein, ça l'est depuis maintes années. Que pensez-vous du Classico hier, un partout entre donc Barcelone et le Real? On attendait un peu mieux que ce match quand même.
Oui, hein. Les deux équipes se sont maîtrisées. Le Real égalise tout à la fin. Suarez a encore marqué son petit but pour Barcelone. Je pense quand même que c'était pas un grand match. Hein. J'ai regardé. Oui, on a connu mieux. Peut-être qu'ils ont un petit peu la pression. Bon, Messi, il a pas été formidable. Ronaldo non plus d'ailleurs de l'autre côté. Et c'était un match très très moyen.
Bon, le Real en tête et puis en tête aussi Chelsea.
6 points d'avance, oui.
Chelsea en Angleterre, hein, même si le championnat est très serré anglais.
Oui, ils sont allés faire une belle victoire à Manchester City. Antonio Conte a fait des merveilles là-bas. Il continue, lui, son petit bonhomme de chemin. Il a mis un 5-4-1 en place. Ils étaient un partout. Et puis, deux contre-attaques fulgurantes avec un but de Willian. Et Chelsea se retrouve en tête.
Et des matchs très spectaculaires, en plus. C'est ça qui est bien.
L'Angleterre, c'est vrai que c'est toujours spectaculaire. Après, maintenant, faut pouvoir voir les matchs parce que c'est sur SFR.
C'est le problème partout. Voilà. Maintenant,
disons que les équipes.
Faut vivre avec ton époque, Pierre.
Les équipes anglaises jouent pour gagner. Contrairement à la France, on joue pour pas perdre.
Pour ne pas perdre, oui.
Voilà. C'est la seule différence qu'il y a entre les Français et les Anglais. En France, on a tendance à jouer la défense et pas perdre de points. Alors qu'en Angleterre, on prend peut-être des buts, mais on en marque un de plus que les autres et on gagne 3 points. Et c'est spectaculaire.
C'est pour ça qu'on va plus au stade.
C'est fondamental, il faut en mettre un de plus que l'adversaire, c'est tout. C'est ce que je dis à chaque
Après, fois. Le problème qu'il y a, c'est que on voit Arsenal hier, il gagne 5-1 à West Ham, par exemple. Mais quand on voit Arsenal contre Paris, on n'a pas à rougir. Quoi. Vrai, hein. Alors ça veut peut-être dire que Paris sélectionne leur match aussi.
Il y a deux matchs nuls, mais sur les deux matchs nuls, Paris aurait mérité largement de s'imposer. Bon, ils sont en tête au goal average particulier. C'est au moins un moindre mal. L'équipe de France, donc, qui a battu la Suède 2-1, ça n'a pas été un match facile, hein, mais l'équipe de France y est arrivée dans la réaction. C'est une équipe bien en place, bien organisée. Et puis un 0-0 contre la Côte d'Ivoire, bon, traditionnel, hein, ces matchs amicaux de fin de saison, de fin d'année plutôt, hein, pour donc le mois de novembre. Mais l'équipe de France plutôt bien partie pour se qualifier cette fois-ci en évitant les barrages pour se qualifier pour donc le Mondial 2018.
Oui, normalement il ne devrait pas y avoir de soucis. On a gagné aux Pays-Bas, on a gagné contre la Suède, on a mis nos adversaires loin derrière nous. Je trouve qu'ils ont fait le job. Ils se sont fait un peu peur, mais après derrière ils ont eu une belle réaction. Et puis contre la Côte d'Ivoire, il a fait tourner l'effectif, il a fait plaisir aux joueurs qui sont remplaçants.
On a vu des joueurs nouveaux arriver,
voilà,
hein, Rabiot, Lemar notamment.
Je pense qu'ils sont dans une bonne dynamique après l'Euro perdu. Alors, malheureux face au Portugal.
C'est la seule défaite qu'ils aient en 2000. José
qui dit ça. Hein.
Ouais, c'est la seule défaite qu'ils ont.
J'étais partagé quand même.
C'est la seule défaite qu'ils ont en 2016.
Oui, c'est vrai. Donc je pense quand même qu'ils sont sur une bonne dynamique.
Alors c'est vrai que des fois ils sont dans la réaction, comme le match contre la Suède et comme beaucoup de matchs de l'Euro. Enfin, en face, faut pas oublier.
Didier Deschamps a su apporter le petit plus qui manquait à cette équipe. Bon, faut voir quand même que c'est une équipe de jeunes. Hein. Il y a quand même, à part quelques-uns qui ont dépassé les 25-26 ans, mais sinon, c'est une équipe très jeune et qui est très solide et très solidaire entre elles. Et Didier Deschamps a su apporter ce petit plus que je disais là.
Et avec une marge de manœuvre encore.
Avec une petite marge de manœuvre. Et on a un bon vivier derrière. Il y a encore des bons joueurs qui sont prêts à rentrer en équipe de France.
Le rugby doit s'inspirer du foot. Hein. On a une belle équipe de France de foot maintenant. Il faut que le rugby fasse pareil.
Ça se restructure, mais quand on met quelqu'un de compétent à la tête, il n'y a pas de raison. Et quand on a une formation qui marche bien, parce que les clubs étrangers viennent toujours nous pirater nos clubs.
C'est ça, parce que les joueurs qui composent l'équipe de France, il n'y en a pas beaucoup qui jouent dans les clubs français. Mais enfin, c'est fréquent depuis la
réponse. J'espère que Payet va partir de West Ham, parce que s'il reste là-bas, il va pas progresser. Je pense qu'il lui manque très très peu encore pour devenir un très grand joueur. Et je pense qu'il est capable de le faire, mais il faut qu'il s'en aille de West Ham. Parce que sinon... sa carrière va se terminer en boudin. Je sais pas comment c'est possible. Je sais que Wenger veut absolument. Ça serait vraiment le club idéal pour lui.
On veut bien le réaccueillir à Marseille, nous. Il n'y a pas de souci.
En tout cas,
qu'il a de l'argent.
Il y a un match amical qui a été programmé contre l'Espagne, juste dans la foulée du match du Luxembourg. Ça sera en mars prochain. Et ensuite, il y aura deux matchs au mois de juin, un contre la Suède et puis un beau match amical pour clore la saison. Ça sera contre l'Angleterre. Voilà. C'est quand même deux gros
matchs. C'est toujours sympa d'avoir des gros matchs comme ça, oui, contre l'Espagne, contre l'Angleterre.
C'est plus que des matchs
voilà,
amicaux.
On va au stade, on voit des grands joueurs. Après, il faut que les matchs soient beaux, quoi.
Oui, bah, en fin de saison, c'est pas toujours évident. Mais enfin, on aura l'occasion d'en reparler. Puis très vite, Francis, il y aura une compétition féminine pour le foot féminin. Je sais qui tient,
oui.
Francis.
Le foot féminin, le championnat d'Europe qui se tiendra aux Pays-Bas en 2017, où on a, je pense, des chances d'être champion. Enfin, on l'espère, on croise les doigts.
On a été battu pour les U1, battu par la Corée, en finale, pour les féminines.
C'est bien, ce qui montre aussi que la formation, même chez les filles, marche bien en France.
Très bien, écoutez, merci messieurs d'être venus nous commenter l'actu foot en ce mois de décembre. On se retrouve le 8 janvier pour Tribune Foot. Et puis, sinon, je vous invite à être avec nous pour la grosse rétro sport dans deux semaines. Ça sera 10h midi. On reviendra sur tous les grands événements sportifs, même en dehors du foot aussi, qui ont marqué donc cette année exceptionnelle de sport en 2016. Merci à Victor qui nous a mené de main de maître au sprint ce matin cette émission. Puis nous, on va encore vous remercier pour votre solidarité et votre générosité à l'occasion de ce week-end de Téléthon. Ça sera Tribune Sport la semaine prochaine, 10h-11h. Bon dimanche à toutes et à tous et à très bientôt. Salut.
Chaque dimanche, 10h-11h, sur RVE, retrouvez toute l'actualité sportive, locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune Sport, avec Philippe Carnu. Vivez votre rêve.